L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, la Belgique divisée sur la question de la reconnaissance du génocide arménien. En Afrique, nous détaillerons le dernier rapport sur la place des femmes dans le monde des affaires. En France, nous reviendrons sur la conférence de presse d'Emmanuel Macron et ses solutions pour sortir de la crise des gilets jaunes qui dure depuis 24 semaines. Au Canada, c'est une première. On verra pourquoi le Parti vert est devenu le parti d'opposition officielle dans une des provinces. Au programme également, la Suisse, toujours empêtrée dans les affaires de corruption au sein de la FIFA, la Fédération internationale de football, avec des remous jusqu'au sommet de l'État. Voilà pour le programme francophone. Bienvenue à tous. Cette semaine en Suisse, c'est un politicien à la retraite qui refait parler de lui en pleine campagne pour un durcissement de la loi sur les armes, Renaud Schulli.
Joe Lang est un rescapé de la tuerie de Zug en 2001. Un forcené avait alors ouvert le feu dans le parlement de ce canton alémanique, faisant 15 morts. Il y a quelques jours, Joe Lang s'est fendu d'un tweet. Avec une loi qui interdit les armes semi-automatiques, il y aurait eu bien moins de morts à l'époque, écrit-il. Une petite phrase qui a encore ajouté de l'émotion à une campagne déjà très tendue en vue de la votation du 19 mai prochain. Une votation qui touche à des traditions en Suisse, un des pays les plus libéraux du monde sur la possession d'armes.
En Algérie, Charlotte Hydrac, la mort cette semaine d'Abassi Madani. Il était le chef historique du Front islamique du salut.
Ce nom reste attaché à la décennie noire qui a ensanglanté le pays, cofondateur du Front islamique du salut. Il appelle à la désobéissance civile après la victoire du parti aux élections locales de 1990. Arrêté, condamné à 12 ans de prison, c'est depuis sa cellule qu'il apprend l'annulation des législatives de 1991. Le fils est dissous, le pays bascule dans la violence. Cela va durer 10 ans. Abassi Madani est libéré en 2003. Il quitte l'Algérie. C'est au Qatar qu'il est décédé mercredi.
Benoît Audet, au Canada, votre personnalité de la semaine est le commissaire à la vie privée.
Oui, Daniel Therrien qui a déposé un rapport dévastateur au sujet des pratiques de Facebook. Daniel Therrien estime que le géant américain a commis des violations graves aux lois canadiennes en lien avec le scandale Cambridge Analytica. 600 000 utilisateurs canadiens de Facebook ont été touchés par ce scandale de partage d'informations privées.
En France, la libération annoncée de Jean-Claude Roman, condamné à la prison à perpétuité il y a 26 ans pour avoir tué sa femme, ses deux enfants et ses deux parents. 5 meurtres à l'époque, pour éviter à sa famille d'apprendre la vérité qui allait éclater et révéler donc au grand jour que Jean-Claude Roman n'était pas ce médecin de l'OMS pour qui il se faisait passer depuis toujours auprès de ses amis comme auprès de sa propre famille. Cette libération conditionnelle, 26 ans après donc, est difficile à accepter pour les proches des victimes, et notamment dans le département de l'Ain où Jean-Claude Roman et sa famille vivaient au moment des faits. En Belgique, la question de la reconnaissance du génocide arménien suscite donc la polémique et divise les partis politiques, Nathalie Devic.
Au centre des débats, une proposition de loi qui condamne plus sévèrement la négation des génocides, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, de sorte qu'à l'avenir, nier, minimiser, justifier ou approuver un génocide soit spécifiquement punissable. Alors c'est déjà le cas pour le génocide juif, mais la Belgique a voulu aller plus loin, en ajoutant dans le texte voté cette semaine, le génocide au Rwanda et celui de Srebrenica en ex-Yougoslavie, mais pas le génocide arménien, comme l'avait pourtant demandé deux partis centristes. Explication officielle, il ne fait pas partie des génocides reconnus, objet d'une décision de justice internationale. Et c'est justement ce que déplore le député Christian Broodcorn, qu'il faille toujours en référer à une instance pénale internationale.
Il faut nous permettre à nous, en tant qu'autorité belge ou européenne, d'aller peut-être au-delà et de considérer sur nos territoires que nier ce genre de situation est passible de sanctions pénales. Je comprends bien qu'on ne peut pas simplement décréter sur un coin de bureau que ça c'est un génocide, ça c'est un crime de guerre, ça c'est un crime contre l'humanité, que des instances reconnues puissent le faire, mais on veut élargir un peu le champ des possibles.
En attendant, vous l'imaginez bien, ce refus a suscité la colère de la communauté arménienne qui parle de mépris pour son histoire. 1,5 million d'Arméniens massacrés en 1915 dans l'actuelle Turquie, sur décision du gouvernement ottoman d'alors. Un massacre que la Turquie a toujours refusé de reconnaître. Beaucoup interprètent du coup la tiédeur belge comme une concession pour ne pas gêner l'État turc. Et ce profil bas passe d'autant plus mal que le cas arménien était débattu ce 24 avril, jour même de la commémoration de cette tragédie, qui reste donc inqualifiée autant qu'inqualifiable.
En Afrique, Charlotte Hydrac, la place des femmes s'améliore dans le monde des affaires.
Oui, alors je commence par la mauvaise nouvelle, ce sera fait. Une grande majorité d'entrepreneuses africaines jugent que l'égalité femmes-hommes n'est pas satisfaisante. Mais la bonne, c'est qu'il y a du progrès dans l'accession des femmes aux postes à responsabilité. C'est ce que disent près de 8 entrepreneuses sur 10, selon une étude réalisée par l'agence de communication Havas Horizon et le réseau de femmes Women in Africa. L'Afrique est le continent où l'entrepreneuriat féminin est le plus élevé. C'est aussi celui où le plafond de verre est le plus résistant. Yacine Fall est directrice générale adjointe à la Banque africaine de développement. Dans son organisation, il y a des directeurs, mais des adjointes.
Je pense que ça va changer avec ces indicateurs de plus en plus exigeants. On sera bien obligé de relever encore le niveau de participation des femmes dans les instances les plus hautes de l'institution. On va y arriver.
On va y arriver, surtout si les femmes du continent prennent plus de place dans les postes clés de la finance. Selon Diana Brondel, la Sénégalo-française dirige une banque en ligne, Khalis.
L'accès au financement est encore très largement trusté par les hommes. C'est aussi en donnant les moyens qu'on aura aussi des femmes qui vont créer des belles boîtes, qui elles-mêmes demain pourront réinjecter de l'argent et de la valeur dans l'économie pour écrire des belles histoires.
Et selon ces entrepreneuses africaines, l'un des leviers les plus efficaces est de constituer ou de renforcer les réseaux de femmes d'affaires.
En France, c'était cette semaine la première conférence de presse à l'Élysée du président Macron après 2 années de pouvoir, 2h30 face aux journalistes pour égrener ses nouvelles orientations et donner un nouveau cap à son quinquennat empêtré par 24 semaines de manifestations de gilets jaunes. Alors du point de vue constitutionnel, le président français souhaite une réduction du nombre de parlementaires entre 20 et 25% de moins, plus de décentralisation aussi. Il est favorable encore à la suppression de l'ENA, cette école nationale d'administration par laquelle il est lui-même passé, cette école qui forme les hauts fonctionnaires, trop éloignée de la réalité du terrain, selon lui. L'école sera remplacée par autre chose qui fonctionne mieux, a réclamé le président Macron. Très attendu aussi, le président, sur la question des retraites. Il a confirmé l'âge légal de départ à 62 ans, cela dit, avec un système de décote qui incitera donc à rester travailler plus longtemps en France. Enfin, pour les petites retraites, maintenant, il y aura une hausse du seuil minimal.
Aujourd'hui, quand on parle des artisans, des commerçants, on a des situations inacceptables. Parce qu'on a beaucoup de nos concitoyens qui n'ont pas cotisé comme il fallait, qui étaient dans des régimes qui étaient moins favorables que le régime général. Et donc on a des centaines de milliers de nos concitoyens qui vivent avec des retraites qui sont parfois sous le minimum vieillesse. Ce sont des situations terribles sur le plan personnel. Et donc je veux que ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire la retraite minimale qu'on touche quand on a travaillé durant sa vie, ce soit de 1 000 euros.
Parmi les autres annonces pêle-mêle du président français, un conseil de défense écologique et pour la petite école, des effectifs qui ne dépasseront pas 24 élèves par classe. Au final, 2h30 d'annonces qui n'ont pas toujours convaincu les 9 millions de Français qui l'ont suivi à la télévision et les Français en général, puisqu'une enquête Harris Interactive estime que 63% des Français disent être restés sur leur faim. Les élections provinciales se succèdent au Canada avec après les électeurs de l'Alberta. Eh bien, c'est au tour de ceux de la petite province de l'Île-du-Prince-Édouard de se rendre aux urnes. Ils ont porté au pouvoir les conservateurs qui seront toutefois minoritaires à l'Assemblée législative. Mais Benoît Audet, il y a plus qu'un simple changement de garde à la tête de cette province?
Oui, les conservateurs ont remporté le plus de sièges et ce qui est vraiment inédit, c'est que le Parti vert a terminé au deuxième rang et formera donc l'opposition officielle. Au Canada, jamais le Parti vert n'avait fait une telle percée, tant au niveau fédéral que provincial.
Il y a quand même une petite tendance depuis le début de la décennie, hein?
Oui, la première députée du Parti vert a été élue en 2011 au niveau fédéral. C'est la chef Elizabeth May qui détient toujours son siège. Ensuite, les citoyens de la Colombie-Britannique ont élu 3 députés verts en 2017 qui font partie du gouvernement de coalition qui dirige la province. Autre percée en 2018, cette fois en Ontario, où un député a été élu. Ça s'est poursuivi au Nouveau-Brunswick où 3 députés verts ont été élus l'année dernière. Mais la victoire à l'île du Prince-Édouard est historique puisque les verts sont passés bien près de décrocher le pouvoir.
Et il y a donc des avancées pour les écologistes, mais il y a encore beaucoup à faire si les Verts espèrent devenir une force dominante au Canada.
Oui, d'abord et avant tout parce que le système électoral du Canada ne favorise pas les petits partis. Il n'y a encore aucun élément de proportionnel et depuis des décennies, ce sont les libéraux et les conservateurs qui se partagent le pouvoir en alternance.
En Suisse, l'enquête sur les affaires de corruption au sein de la FIFA, la Fédération internationale de football, provoque des remous jusqu'au sommet de l'État, à tel point que le procureur général de la Confédération se retrouve lui-même objet d'une enquête préliminaire. Pour quelle raison précisément, Renaud Schuilly ?
Il y a quelques mois, on apprenait que Michael Lauber, le procureur général, avait rencontré deux fois le président actuel de la FIFA, Gianni Infantino, de façon informelle. Entendez par là, sans protocole, comme l'exigerait pourtant le code de procédure pénale. Michael Lauber a alors été rappelé à l'ordre par son autorité de surveillance et s'était engagé à consigner l'ensemble de ses entrevues. Mais voilà qu'une troisième rencontre non protocolée vient d'être révélée. De quoi jeter une ombre sur ses activités.
Et quelles sont les conséquences sur le travail d'enquête ?
Le dossier de la FIFA, aussi complexe que spectaculaire, a des ramifications internationales. Cette polémique risque donc non seulement de provoquer un dégât d'image, elle pourrait aussi compliquer la collaboration entre le ministère public helvétique et ses partenaires européens et américains. Selon certains experts, cela pourrait même compromettre certains volets de l'enquête autour de la FIFA.
Oui, est-ce que le procureur général de la Confédération sera contraint à la démission ?
Pour Claude Nicati, lui-même ancien procureur fédéral, il doit en tout cas se récuser.
Cette procédure, maintenant, si on veut qu'elle soit conduite à bon port, eh bien, il faut que les règles soient respectées, que ceux qui ont peut-être eu certaines entorses avec les règles, eh bien, se retirent du dossier.
Se retirer du dossier ou se retirer tout court, si Michael Lauber ne le fait pas de lui-même, le Parlement va de toute manière se pencher sur son cas et son avenir semble bien incertain.
Voilà donc pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous francophone, ce sera la semaine prochaine, au même endroit et à la même heure.